BPM. Élection municipale 2022.
Bienvenue sur BPM si vous venez de nous rejoindre. L'élection municipale de Mantes-la-Jolie aura lieu le 15 et le 22 mai qui arrive prochain. À cette occasion, nous vous proposons des émissions spéciales. Les candidats viennent répondre à nos questions et nous accueillons François Gerbert, candidat de la liste Pour vous, pour Mantes. François Gerbert, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez 63 ans, vous êtes avocat au barreau de Paris et aussi écrivain. Vous avez été conseiller municipal de la ville de Mantes-la-Jolie de 89 à 94. Vous conduisez la liste Pour vous, pour Mantes. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter ?
Alors, ce qui m'a poussé à me présenter, c'est d'abord l'aimable sollicitation de nombreux électeurs mantais. Et deuxièmement, alors que j'avais déjà été sollicité en 2020, ce qui a fait ma décision, c'est les rapports de la Cour des comptes. Et en particulier, le rapport principal sur la gestion de la ville, bon, le rapport secondaire sur la gestion du marché, mais le rapport principal sur la gestion de la ville, qui atteste que la ville est dirigée par des gens qui sont radicalement incompétents. Il y a la mise en cause quand même de la compétence de tous les sortants, que ça soit l'équipe Santini ou l'équipe Cognet, parce que pour nous, c'est exactement la même. Sans compter les frasques d'un certain nombre d'élus, caviar, homard, foulard Hermès, etc., ça, à la limite, bon, c'est regrettable et c'est assez pitoyable, mais véritablement, c'est le problème de la compétence. Voilà.
Alors, justement, dans votre programme, un chapitre économique, un chapitre, le premier, hein, la première ligne, oui. Gérer la ville et ses finances avec compétence et rigueur. Mmh. Alors, une de vos priorités, je vous cite, c'est de rendre le pouvoir d'achat augmenter. Alors, comment on fait pour rendre du pouvoir d'achat ? Parce qu'il y a des présidents de la République qui essayent depuis 30 ou 40 ans et qui ont un petit peu de mal.
Oui. Alors, vous avez à la fois pris la première ligne de notre programme et la dernière en mêlant les deux. Mais pourquoi pas? Et d'ailleurs, il y a une logique à ça. Tout d'abord, compétence, rigueur, probité. Je rappelle, et là, c'est le rapport de la Cour des comptes, hein, qu'il y a l'incompétence, le manque de rigueur des élus sortants, Cognet, Santini et autres, a généré quand même l'évaporation de l'ordre de 15 millions d'euros de finances municipales. Alors effectivement, quand on est dans une ville pauvre, objectivement, ce qui est le cas de la ville de Mantes, jouer dans des sortes de concours bancaires avec 15 millions d'euros du contribuable, c'est inadmissible. Ne pas être capable de vérifier les horaires des fonctionnaires municipaux à tel point qu'on pense qu'il y en a, il y a 30 ou 35 équivalents temps plein qui en fait ne sont pas présents, c'est-à-dire que si la commune était gérée correctement, on pourrait payer avec les mêmes fonds 30 fonctionnaires de plus sur la base du même horaire, ou obliger les fonctionnaires à travailler au moins 35 heures. Derrière, faut pas oublier qu'il y a des citoyens. Voilà. Quand effectivement on pense que le même montant financier permettrait d'avoir 30 fonctionnaires de plus, ça fait peur. Ou d'obliger les fonctionnaires en place à travailler au service des Mantais, l'heure réglementaire, ça fait peur. Donc c'est ça qui m'a incité à me lancer dans cette élection. Et c'est ça, je crois, qui motive également tous mes colistiers. Le rapport marque la fin d'une époque, la fin d'une ère, faut tourner la page.
Alors, vous expliquez également dans votre programme, c'est ça le gaspillage ?
Oui, le gaspillage, c'est ça. C'est les 15 millions d'euros qui sont partis, c'est les horaires de fonctionnaires qui ne correspondent pas à une prestation. Je crois que la Cour évoque même des fonctionnaires qu'elle n'a pas trouvés. Fonctionnaires municipaux, elle n'a pas trouvé, c'est pas qui c'est. Ce sont les frais d'essence, c'est un élu, en l'occurrence Raphaël Cognet, qui fait 3 plans dans la journée. Mais ce sont des pratiques, c'est inimaginable. Inimaginable. Alors, j'allais dire en plaisantant, même à Levallois-Perret, ça serait pas acceptable. Mais Levallois-Perret, c'est une ville immensément riche. Voilà. Mantes, c'est une ville pauvre. Le gaspillage, le mépris de l'argent public tel qu'il a été conçu par les élus sortants, c'est inadmissible. Et c'est suffisamment d'indignité pour qu'effectivement ça motive une présentation aux élections.
Alors, vous voulez également réduire les impôts. Alors, on va commencer avec la taxe foncière. Comment on arrive à réduire la taxe foncière en gardant un budget d'investissement important, en sachant que depuis des années, les dotations de l'État aux communes baissent?
Alors, c'est effectivement un problème complexe. Ça l'est d'autant plus que maintenant la GPSO intervient, c'est-à-dire la communauté d'agglomération intervient dans la fixation de l'ensemble de ces impositions qui sont payées par les Mantais. Donc ma réponse sera en deux temps. Un, je n'élimine pas la complexité du phénomène. Deux, c'est un objectif politique. C'est un objectif politique qui peut être atteint déjà par l'évitement du gaspillage, parce que les sommes que j'ai indiquées, les 15 millions d'euros, les frais d'essence, l'addition, elle est très difficile à faire. L'addition de l'ensemble des gaspillages du rapport de la Cour, mais elle correspond bien à de l'argent public qui s'est évaporé dans des pratiques invraisemblables. Donc, l'idée, c'est de contribuer à la réduction des impôts locaux en réduisant le gaspillage, en mettant une meilleure allocation des moyens en faveur des Mantais, et puis en rediscutant fondamentalement sur l'utilité de la GPSO, dont on s'aperçoit que c'est un instrument qui a été créé dans la perspective de la fusion des deux départements pour donner à un certain nombre d'élus locaux, dont Pierre Bédier, une assise pour discuter dans le cadre de la fusion du 92 et du 78, fusion qui est totalement évacuée aujourd'hui. Donc la question du maintien de la GPSO sur une structure départementale aussi vaste, sur un espace aussi vaste, se pose, et nous ne sommes pas favorables au maintien de cette collectivité.
Alors, vous ferez quoi? Vous reviendriez à la CAMI?
On reviendrait, enfin, nous sommes favorables, effectivement, à une séparation en des espaces, en des communautés plus restreintes de ce monstre qui est devenu la GPSO.
Alors, question sécurité maintenant. Comment imaginez-vous réduire les incivilités et les violences dans la commune?
Alors, c'est amusant que vous me parliez de l'insécurité, parce qu'en fait, l'insécurité aujourd'hui, elle est quasiment davantage à l'Amérique dans la rue, à mon avis. Hein. On a dans l'équipe actuelle un maire par intérim qui est convoqué devant le tribunal au mois de novembre. On a dans l'équipe qui se présente de Monsieur Santisi une ou deux personnes qui ont été condamnées. Et on a dans l'équipe de Monsieur Santini, comme dans l'équipe de Monsieur Cognet, des gens que la Cour des comptes oblige à se mettre au garde à vous, en quelque sorte, devant ces instructions. Et je vous indique, c'est un scoop pour BPM, que grâce à notre initiative, Monsieur Vialet, d'abord, Monsieur Elémer, maire par intérim, a délivré le titre de recette imposé par la Cour depuis presque 2 ans à Monsieur Vialet, et que Monsieur Vialet a payé les quelques 40 ou 45 000 euros qu'il devait à la commune. Et ça, c'est parce que nous avons mené à l'égard du préfet une action résolue que ce paiement est intervenu. J'indique que Monsieur Cognet, de son côté, n'a jamais obligé son ex-copain Vialet à procéder au paiement qui était exigé par la Chambre des comptes.
Oui, alors je vous parlais des incivilités et des violences aussi dans la commune. Hein. Il y a des agressions. Bref.
Alors,
Monsieur Cognet a été victime d'une agression la semaine dernière. Il y a quand même eu quelques émeutes, il n'y a pas si longtemps, face aux forces de police et aux jeunes au Val-Fouré. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, moi, je dirais que par rapport à une situation nous avons connue à Mantes il y a plusieurs années, l'appréciation de la délinquance n'a rien à voir aujourd'hui. Ok, il y a de temps en temps des mouvements. Effectivement, on a eu lors de la fête de l'Aïd cette intervention des policiers qui était sans doute disproportionnée par rapport à la problématique et qui a suscité une émotion et quelques mouvements. Et on a ce que vous appelez les incivilités. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment pénible pour les citoyens. Tout le monde en est victime. Voilà. En particulier les femmes. Mais tout le monde est victime dans les cages d'escalier au Val-Fouré, au centre-ville, dans la rue, de ces incivilités. Ce ne sont pas des délits au sens propre du terme, ce sont des agressions verbales. Ça pourrit la vie au quotidien, ça porte atteinte au vivre ensemble. C'est la raison pour laquelle nous avons une vision globale du vivre ensemble, vision qui passe bien entendu par l'enseignement, mais qui passe également par l'encadrement sportif. On a beaucoup travaillé avec les éducateurs et les entraîneurs du FC Mantois. Vous allez me dire quel est le rapport avec les incivilités. Eh bien, je vais vous dire que le fait d'être dans une ambiance où on vous apprend à la fois le sport, on vous initie au sport, mais on vous apprend le respect sur un terrain de foot, ça contribue pour les jeunes générations à avoir une attitude différente. L'apprentissage républicain, il passe aussi par la pratique sportive apaisée dans les conditions dans lesquelles a su le faire depuis toujours le FC Mantois, par exemple, et bien entendu d'autres clubs sportifs, mais je pense à celui-ci par préférence parce que c'est celui qui accueille le plus grand nombre de petits Mantais.
Bah justement, vous parlez de sport. Vous avez dans votre programme, vous voulez un investissement plus grand pour que le bassin d'Aviron participe. Alors, vous aimeriez des compétitions des JO 2024 hein, au bassin d'Aviron, ou voir des entraînements des équipes, des différentes équipes. Mais n'est-ce pas un peu trop tard à deux ans de la compétition?
Oui, c'est un peu tard, incontestablement, puisque on est en 2022, que les JO sont en 2024, il n'y a plus que deux ans. Le bassin d'Aviron nécessiterait de toute évidence une adaptation parce qu'il y a un problème de ligne d'eau complémentaire. On me dit, c'est impossible, c'est une proposition, comment dirais-je, quasiment hors sol. Bon, quand on a une volonté politique et sur un objectif aussi important que celui-là, je pense que rien n'est impossible, nonobstant le fait que ça mobiliserait incontestablement des moyens. Mais votre question amène effectivement à la responsabilité des équipes sortantes. Voilà, les Jeux Olympiques 2024, c'est quand même pas d'hier qu'ils sont fixés. Le bassin d'Aviron à Mantes, c'est pas d'hier qu'on sait qu'il y a un problème de ligne d'eau complémentaire. C'est pas d'hier non plus qu'on sait que c'est un équipement structurant quasiment au niveau national, hein, puisqu'on a
des compétitions
nationales qui se passent ici. Et on a un problème pour passer aux compétitions internationales. Voilà. Donc, on est tombé dans une sorte d'abandon de cet équipement numéro 1, dont on va sûrement payer les conséquences aujourd'hui. Voilà. Donc, il est possible que notre projet ne soit pas réalisable. On n'est pas des magiciens. Ça permet en tout état de cause de mettre l'accent sur le problème du bassin d'Aviron et sa nécessaire adaptation et modernisation. Et je rappelle quand même que parmi tous les candidats qui se présentent, je suis un seul à avoir pratiqué l'aviron depuis 1981, date à laquelle j'effectuais mon service militaire, et avoir été membre actif du club de l'aviron Mantais. Voilà.
Allez, on a quelques sujets à aborder. Il nous reste 8 minutes.
Oui.
On va parler du cadre de vie. Vous voulez une écologie de terrain. Alors, c'est quoi une écologie de terrain?
L'écologie de terrain, c'est la perception par tout le monde de l'impératif écologique à partir de la vie quotidienne. C'est-à-dire que c'est pas le grand discours politique qui tombe en haut et qui vous donne des indications, c'est le vécu quotidien. Et ce vécu quotidien, pour nous, il passe par, je prends mon exemple personnel, la pratique de l'apiculture depuis l'âge de 6 ans. Voilà. Donc là, on sait ce que c'est que l'écologie. On sait que les abeilles crèvent par milliers parce que un certain nombre de paysans utilisent des produits terrifiants qui les tuent. On sait que le réchauffement climatique leur pose des problèmes. Et on sait que le commerce international mal maîtrisé a introduit en France le frelon asiatique qui vient aussi tuer nos abeilles. L'une de nos idées est de créer sur le terrain de la ferme pédagogique deux classes qui permettraient de faire tourner les élèves des écoles primaires sur la ferme pédagogique de telle façon que une semaine ou 15 jours pour chacune de ces classes, ils soient en contact direct avec la nature, ils comprennent ce que c'est qu'une vache. Ils respectent l'animal qui est élevé et ils soient capables de distinguer une guêpe d'une abeille, ce qui malheureusement n'est pas le cas aujourd'hui pour un élève qui sort de l'enseignement primaire. Et ça, c'est assez terrifiant. Donc voilà, l'écologie de terrain, c'est ça.
Et ben justement, puisque vous parlez des élèves de l'école primaire, vous voulez construire une école élémentaire à Gassicourt. Alors pourquoi à Gassicourt?
Alors pourquoi à Gassicourt? Parce qu'on s'est rendu compte dans le cadre de cette campagne qu'en fait il y avait moins d'élèves sur la zone du Val-Fouré et que la zone de Gassicourt en revanche prenait de l'importance puisque un certain nombre de petits pavillons qui étaient occupés par des retraités de la SNCF ou d'autres ou de la fonction publique étaient vendus que des familles s'implantaient avec des enfants. Voilà. Et il y a donc une translation du nombre d'élèves qui vient sur Gassicourt. Le partage des classes également fait que il y a un besoin à ce niveau. Donc on souhaite qu'une belle école, qu'un projet structurant soit réalisé sur Gassicourt, du style du Derzo, qui a été une très très belle école, la dernière à être construite.
Vous savez où elle sera construite?
Non, pas encore.
Pas encore.
On va déterminer, enfin si nous sommes élus, nous déterminerons ce site. parce qu'encore une fois, on souhaite que le projet soit structurant pour le quartier et qu'il soit lié au quartier. Donc, on demandera aux habitants, puisqu'on a institué également, on propose dans notre programme ce qu'on appelle la maîtrise d'usage, c'est-à-dire que les habitants soient associés à la constitution du projet et ensuite à son exécution.
Et vous voulez également des financements spécifiques pour les élèves en difficulté. Alors, c'est déjà le cas à Mantes-la-Jolie, comme la cité éducative,
oui, tout à
la
fait.
Réussite éducative.
Oui, tout à fait, qui d'ailleurs a été montée par des gens proches de nous qui ont appartenu à la municipalité dans les années 2014. Donc on souhaite continuer ce projet. On souhaite que la période postérieure à la sortie de l'école, on va dire 16h30, 18h30, voire 19h, soit vraiment consacrée aux devoirs et à la poursuite de l'apprentissage.
Passons au logement. Vous souhaitez une nouvelle politique à ce sujet. Alors, qu'est-ce que vous pouvez reprocher à celle actuelle?
Ce qu'on reproche à celle actuelle, c'est pas compliqué, c'est ce qui se passe actuellement pour les élections. Voilà. C'est-à-dire que on a des gens qui, depuis 4 ans, sont en demande de logement. Et là, soudainement, ils sont appelés au téléphone et on leur dit « Tiens, tu vas venir... on a une petite réunion dans un bistrot de la rue Pierre et Marie Dubois. T'as pas demandé un logement il y a 4 ans ? Si, si, viens, tu vas trouver ça, voilà. Le gars arrive, on vérifie s'il a sa carte d'électeur. S'il l'a pas, il va l'avoir dans les 2 jours qui suivent. Et il passe par 2 ou 3 personnes. Et on lui dit, écoute, voilà, mon gars, ton dossier, il va être monté dans pas longtemps, etc., etc. Vrai ou pas vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'on lui propose. Alors nous, on dit, ça, c'est fini. Le système du favoritisme, le système qui fait qu'un Mantais qui demande un logement depuis 4-5 ans se voit doublé par quelqu'un qui arrive depuis 2 jours et qui lui obtient un logement parce qu'il est passé par un réseau qu'on maîtrise mal, mais dont on commence à imaginer le parcours, c'est terminé. Voilà. Ce qu'on veut, c'est qu'une égalité de traitement de l'ensemble des Mantais soit instaurée dans la transparence. Voilà. Ça, c'est une nouvelle politique du logement. Et puis derrière, il y a effectivement la politique de fond qui est davantage une politique peut-être liée à l'urbanisme. La rénovation des logements, la mise en place de nouveaux dispositifs également sur le photovoltaïque, par exemple, à traiter avec les bailleurs sociaux. Et là, on revient sur la problématique du pouvoir d'achat. Plus globalement, le traitement des copropriétés dégradées, etc., etc., qui est aujourd'hui un problème, d'ailleurs, aussi bien sur le Valpouré que sur Gassicourt ou le centre-ville.
Et que comptez-vous faire, alors, justement, sur ces copropriétés? Vous êtes élu dimanche?
Alors, l'avantage de notre liste, c'est que, d'abord, il y a un certain nombre de juristes dont je suis qui connaît bien le problème des copropriétés, et deuxièmement, il y a un certain nombre de personnes très investies dans le domaine du logement. La copropriété dégradée, ça pose deux questions principales. La première question, c'est le rôle même de la copropriété, c'est-à-dire la copropriété, c'est quand même le domaine privé théoriquement, c'est pas l'initiative municipale. Donc le premier point, c'est de faire une sorte d'audit en disant mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous comment vous avez géré votre copropriété? Est-ce que vous avez payé vos charges régulièrement? Est-ce que vous avez investi régulièrement? Et est-ce que vous êtes assisté régulièrement? Parce qu'on a vu quand même un certain nombre de sociétés qui exerçaient les fonctions de syndic, qui sont en train de disparaître et de s'évacuer, ne pas assister correctement les copropriétés. Donc là, nous souhaitons mettre en place un service particulier à la mairie qui puisse aider les copropriétés, les suivre, alors qu'elles sont aujourd'hui dans l'incapacité de faire ce travail.
Alors, il nous reste 1 minute. Nous allons parler maintenant santé, un sujet qui vous tient à cœur, François Gerbert.
Oui. Vous
comptez attirer, un peu comme tous les gens qui se présentent, plus de médecins dans la ville. Alors, comment allez-vous faire?
Alors d'abord, nous avons été les premiers à poser cette problématique sur la table. Alors les autres suivent, ce qui d'ailleurs est bien. On est quand même les initiateurs d'un certain nombre de choses et d'un certain nombre de réflexions. On part de constat simple. Moi, j'ai mon médecin, il avait 6000 patients sur sa liste, il est parti en retraite au 1er janvier. Voilà, c'est une catastrophe pour ces patients parce qu'il n'est pas remplacé. Donc on a compris qu'il s'agissait pas de gesticuler, mais qu'il fallait entrer dans le vif. Donc il faut que la mairie embauche des médecins. Voilà.
Des médecins qui seront embauchés par la municipalité.
Des médecins qui seront embauchés par la municipalité et auquel la municipalité assurera l'ensemble du suivi administratif. Voilà, c'est-à-dire qu'ils seront en plus déchargés de toute la problématique administrative pour se consacrer uniquement au suivi médical, à la pratique médicale. Voilà, ça c'est le projet. C'est un projet qui est complexe à mettre en œuvre, mais nous nous y engageons fortement parce qu'aujourd'hui, tant au niveau des généralistes que des spécialistes, c'est un besoin énorme au sein de la ville de Mons.
Merci François Gerbert d'avoir accepté notre invitation.
Mais c'est un plaisir.
Cette émission sera rediffusée ce soir à 18h30 et disponible sur notre site internet bpmlaradio.com, rubrique podcast municipal 2022. D'ici quelques instants, demain, nous accueillerons à 7h30 Marc Jamais et à 8h30 Raphaël Cognier. Excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.
BPM, élection municipale 2022.